Et bonjour à tous, bienvenue sur Paris Central. J'espère que tout le monde va bien. On a pas mal de sujets, pas mal de gens. On va débriefer toute l'actu du PSG. Restez avec nous, ça va être chaud. J'ai avec moi aujourd'hui Basto et Gato. Alors, première question, il y en a d'autres qui vont arriver derrière. Il y a Rico, Kev, normalement, qui arrivent. Première question, on a eu pas mal d'années où on était vraiment, vraiment, vraiment dans le dur. Et là, est-ce qu'on est en train de reprendre du plaisir, messieurs? Je te laisse commencer, Basto.
Oui, on a envie de revoir les matchs, ce qui est déjà une nouveauté. T'as vu les matchs avec moi, je retrouve cette petite peur d'avant-match, ce petit stress que j'avais perdu, puisque qu'on gagne ou qu'on perde, ça m'était un peu indifférent ces dernières années. Maintenant, je ne suis pas encore à un niveau de passion que j'avais encore jusqu'à sous Unai Emery, que j'ai un peu perdu de suite. Mais on retrouve le plaisir de regarder des matchs, la peur de perdre et la joie de gagner. Donc c'est déjà beaucoup de choses, mais cette équipe forcément donne envie d'être aimée et d'être envie de regarder. Elle est sympathique, il faut le dire.
Et toi, Gato, vas-y, enchaîne. Est-ce que tu retrouves un peu la passion du PSG après avoir été un peu endormi ces dernières années?
Toujours la passion est toujours là. Ça, c'est indéniable. La passion est toujours là. Maintenant, c'est vrai que on a eu vraiment une année très, très, très compliquée sous Christophe Galtier avec les blessés, etc. Et là, on retrouve quand même une union. Que ce soit au sein du groupe et au sein du groupe plus les supporters inclus. Et ça, c'est très important. Et même en tant que les supporters, on a éliminé certains chemins, notamment des chemins du Roi, chemin du Nando Rosario, chemin des Bondy et tout et tout. Là, on est vraiment unis à travers cette équipe. Et la preuve, on a perdu un match à domicile et c'était pas une catastrophe pour autant. L'année dernière, on pouvait même gagner des matchs. On était quand même énervés. Et donc là, on voit qu'il y a un renouveau.
Et justement, Réco, est-ce que justement toi t'expliques aussi de la même manière que Gato la fin des dissensions entre les supporters avec un projet de jeu qui réapparaît là?
Bah ouais, je pense que ça se voit vraiment au niveau des supporters en plus, parce qu'on voit que sur Twitter, déjà, c'est beaucoup plus calme, il y a beaucoup moins de soucis. Alors c'est sûr que, comme disait Gato, on a perdu beaucoup on va dire, de mauvais supporters qui étaient là pour, on va dire, les mauvaises raisons, plus là pour les joueurs que pour le club. Donc, comme l'a dit Gato aussi, la passion n'a jamais vraiment disparu, même si elle s'était un peu éteinte ces dernières années, parce que justement, ouais, il y avait trop de choses qui n'allaient pas. Il y avait des joueurs qui venaient, qui mouillaient pas le maillot. On se reconnaissait plus en fait là-dedans. Et c'est vrai que là, cette année, on le voit. Comme il l'a dit, on a perdu un match au Parc face à Nice, et au final, on en est sorti pas énervé ou quoi que ce soit. On était quand même content de l'équipe entre guillemets. On s'est dit bon, on aurait quand même dû gagner, faire mieux et tout, mais voilà, ça va prendre du temps, on va laisser du temps, on va laisser les hommes en place. On voit que on peut leur faire confiance parce qu'on le voit en fait à leur comportement et à leur, comment dire, et à leur, à ce qu'ils nous disent aussi en conférence de presse, parce qu'on voit bien que ce qu'ils disent, c'est aussi ce qu'ils font. Et ça, c'est important, avoir un discours cohérent. Et on le voit sur le terrain, que ce soit les joueurs ou l'entraîneur. Luis Enrique, je ne sais plus quel match, on menait 2 ou 3-0. Il ne voulait pas qu'on lâche, il voulait qu'on aille gagner 4, 5-0. Donc voilà, ce qu'ils disent, ils le mettent en place. On le voit dans leur comportement aussi au quotidien, avec les vidéos qu'on peut voir à l'entraînement. Donc on voit qu'il y a un vrai groupe, il y a un vrai collectif, une vraie équipe, une vraie union. Il y a le sentiment aussi et l'envie de vouloir, on va dire, gâter les supporters, leur donner du plaisir, du vrai football, montrer qu'ils sont vraiment une équipe et qu'ils les respectent. Et je pense que ça, on le ressent tous. Et au final, eh ben, on tire tous dans le même sens. Et on a l'impression vraiment que le Paris Saint-Germain, enfin, a décidé d'avoir une vraie équipe et de se concentrer enfin sur les résultats et sur le football. Et ça fait plaisir.
Ah ouais, je profite au passage pour des bonjour à Mams, bonjour à Mister T, bonjour à Carnito, bonjour à tous ceux qui nous disent bonjour. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat. Et là, justement, il y a Tamso qui fait une petite remarque, qui dit qu'on a retrouvé un peu une assise. Mais est-ce que maintenant, pour lui, la qualité de jeu n'est pas exceptionnelle? Comment est-ce que vous avez envie de réagir à cette remarque? Je ne sais pas, Gâteau commence, par exemple. On t'entend pas, Gâteau, par contre. T'as pas la
À
voix.
part le micro, ouais.
Vas-y, Basto, vas-y, Basto.
Je peux dire quelque chose juste avant
Vas-y, vas-y, ouais.
par rapport aux supporters qu'on a perdus, qui étaient des faux supporters sur Twitter, etc. Moi, je ne vais pas au parc, mais a priori, les échos aussi, c'est qu'au parc, l'ambiance ne se limite plus forcément qu'à Auteuil et on a une ambiance qui prend un peu dans les autres tribunes parce qu'on a aussi perdu les supporters qui venaient pour voir jouer Messi et non pas pour venir voir le PSG. Donc, avec les revente de tickets place, c'est plus à prix d'or que c'est acheté par des touristes qui veulent voir Messi, mais plus des joueurs qui veulent voir Paris jouer. Donc ça fait aussi partie de la chose. Sur la qualité de jeu exceptionnelle, oui, mais on ne va pas attendre une qualité de jeu exceptionnelle en 6 ou 7 matchs, on est sur la bonne voie. On n'est pas encore City, on en est conscient. Hein. Je pense que tout le monde est conscient. Mais ça ne peut aller qu'en s'améliorant. Et pour un niveau de base, après 6-7 matchs, il n'y a pas grand-chose à redire.
Je suis assez d'accord là-dessus. Personnellement, je ne m'attendais pas à ce... Alors oui, ce n'est pas exceptionnel non plus, mais je ne m'attendais pas à ce qu'au niveau du jeu, on soit aussi bon, qu'on fasse des matchs aussi aboutis. Je trouve que c'est solide derrière, c'est solide devant. On voit vraiment des préceptes de jeu intéressants. On arrive à s'adapter à l'adversaire. On vient quand même de taper une semaine où on met 2-0 à Dortmund et 4-0 à l'OM. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal. Il a changé de compo plusieurs fois. Il n'hésite pas à mettre un Barcola pendant le Classico qu'on n'attendait absolument pas. Au final, ça se passe bien. Les joueurs performent plutôt bien. Il n'y en a pas un ou deux qui est vraiment dans le mal ou quoi. Donc, ça montre quand même que collectivement, c'est solide puisque quand tu t'intègres dedans, ça se passe bien. Il arrive à demander certaines choses à certains joueurs qui n'avaient pas forcément l'habitude et ça se passe bien. Donc, à un moment donné, franchement, pour 6 ou 7 matchs, moi, je suis satisfait. Alors après, voilà, avec le temps, ça va aller de mieux en mieux. Donc, pour moi, il y a de quoi quand même être optimiste.
Et toi,
on parle de loin.
T'as retrouvé ton micro.
On peut être optimiste. Ouais, j'ai retrouvé mon micro, j'avais des petits pépins. Non, on peut être optimiste parce que, mine de rien, on a quand même vécu un mois de septembre avec de belles choses. De belles choses, on a vu du beau jeu, on a vu des solutions qui peuvent venir de partout. On n'est pas tributaire seulement d'un trio, on n'est pas tributaire... d'un secteur de jeu, on ne va pas tout miser sur l'attaque et après on va se débrouiller. Non, là on est là, on voit qu'en défense, on a des solutions, il y a des personnes qui vont revenir, de blessures aussi. Du côté du milieu de terrain, on pouvait imaginer que ce serait peut-être un petit peu léger, puisque Ugarte plus Vitinha et Emery, c'est assez jeune. Et en termes de solutions, on pouvait avoir des doutes, mais vu ce qu'on a vu, vu qu'en fait l'osmose de l'équipe fait que t'es pas seulement en train de jouer sur la gauche comme la saison dernière ou que dans l'axe avec Messi ou t'es vraiment tributaire de trois joueurs. Là, non. Le danger peut venir de partout. Il y a une cohésion. On n'est pas en train de défendre à 7 comme l'année dernière ou il y a un an et demi. Donc, moi, je suis vraiment satisfait du début de saison. On a retrouvé aussi des couleurs. Il y a des joueurs qui étaient en difficulté un petit peu moralement, pas forcément sur le football, mais moralement, à l'image de Hakimi, qui est en train de faire un début de saison exceptionnel. Voilà, c'est vraiment, vraiment propre et j'aime beaucoup.
Et justement, on va passer à toi, Réco. Et ma question, en relation un peu avec ce lead twist, est-ce qu'on n'est pas passé, on était dans une Mbappé dépendance, et est-ce qu'on ne se retrouve pas de facto dans une Ugarte dépendance?
Ouais, je pense que la Mbappé dépendance, on a vu que ça y est, c'était peut-être terminé, hein, parce que avec sa blessure et tout, au final, on n'a pas trop parlé de sa blessure. Et après, quand il est sorti, on a quand même continué de faire un bon match. Ça a attaqué à gauche, ça a attaqué à droite, donc et ça s'est bien passé. Donc au final, oui, on se rend compte que devant, on a quand même bien fait de doubler les potes, de prendre des joueurs de qualité. Et forcément que si jamais Mbappé part l'année prochaine, on sera moins inquiet. Et si jamais il arrive une blessure comme il s'est passé là, on sera moins inquiet, on pourra quand même faire de bons matchs. Malheureusement, le problème, c'est qu'on s'en est rajouté une. On le savait déjà après la fin du mercato que ça allait peut-être être compliqué au milieu de terrain. Mais c'est vrai qu'on ne pensait pas que Ugarte allait être aussi fort et aussi important, surtout. Aussi important. Et je pense que quand... Alors oui, il y a Danilo, il y a peut-être Marquinhos que tu peux monter en 6 aussi, mais... Ouais, quand tu vois le boulot que fait Ugarte, quand tu vois le niveau qu'il a aujourd'hui, que ce soit dans les récupérations de balles, que ce soit dans la distribution du jeu, que ce soit dans la percussion, parce qu'il arrive à remonter les ballons, balles au pied, c'est quand même très costaud. Et on n'a aucun joueur qui est capable de faire ça. Et malheureusement, je ne suis pas certain qu'on puisse recruter un joueur cet hiver de son niveau, ou même un petit peu moins. Donc à mon avis, il va falloir attendre cet été. Et jusqu'ici, il va falloir serrer les dents, parce que si jamais on perd Ugarte, et on l'a vu face à Nice quand il n'était pas aligné, on s'est fait bouffer, alors que quand il rentre, ça change tout. Donc, à mon avis, il va falloir quand même trouver un joueur cet été capable de soit jouer à son poste et d'être une doublure, voire le concurrencer, ou alors trouver peut-être un joueur un peu plus hybride, par exemple dans le style d'N'Golo Kanté, qui est capable de jouer, qui est plus milieu axial et qui se projette, mais qui est capable aussi d'assurer ce poste de 6.
Zubimendi.
Qui ça?
Zubimendi.
Non, mais en tout cas, il va falloir qu'on trouve un joueur capable forcément d'apporter ce que Ugarte nous apporte, parce que là, sincèrement, on le sait tous, s'il est blessé, ça va être très compliqué. Et on l'a vu, je ne sais plus dans quel match, je crois que c'était Nice quand il est rentré, qu'à un moment donné, il était au sol, il se touchait la cheville. Voilà, on n'emmenait pas large, donc il va falloir faire attention. Il va falloir aussi le faire souffler aussi souvent qu'on peut, parce que pour le coup, il faut vraiment le préserver. Autant Mbappé, même s'il est important, on a vu qu'on avait les joueurs pour le remplacer. Autant là, faire attention.
Basto, sur la Ugarte dépendance. Il y a juste une remarque qui est très juste ici contre l'OM. C'est vrai, on a le match le plus abouti sans Kylian Mbappé et c'était à noter, quoi. Et juste très rapidement, avant de te repasser la parole, Endur, oui, il est intéressant, mais c'est un très jeune joueur. Et pour l'instant, tu as aussi besoin de dégager un 11. Et il n'est pas forcément, tu vois, enfin, quand tu parles de Ugarte, il a pris une telle importance que tu peux pas envisager de le remplacer par Endur pour un match. Oui. Mais en soi, ce n'est pas une solution qui va être pérenne. Basto, sur la Ugarte dépendance.
J'ai envie de dire la phrase bateau, on est toujours dépendant de ses meilleurs joueurs. N'importe quel coach le dira, ce n'est pas parce qu'Mbappé est sorti qu'on a fait un match qu'on ne sera pas dépendant d'Mbappé dans certains matchs ou un peu plus fermés où on aura besoin d'Mbappé. Ugarte, le problème, c'est qu'on sait très bien qu'il manque un ou deux milieux. Donc le problème, c'est pas que. Enfin, c'est même l'année dernière, tu vois, on avait des milieux, mais on était dépendant de personne parce que personne n'était au niveau. Donc si on est dépendant d'un joueur, c'est déjà qu'on a un super joueur. Donc c'est déjà une bonne nouvelle pour moi. Alors bien sûr, si Ugarte n'est pas là, c'est plus compliqué. Tu peux jouer autrement. Enrique a montré qu'il pouvait changer de système contre Marseille avec ce 4-4-2. Donc, tu as d'autres solutions qu'il trouvera. Ça peut suffire pour 6 mois. C'est vrai que si on peut prendre quelqu'un au mercato d'hiver, s'il y a la possibilité de le faire pour les échéances de février, ce serait pas mal. Maintenant, bah, on est dans une année de transition, comme on dit, pour une fois, une vraie année de transition. Au pire, ce sera l'été prochain. C'est pas si grave.
Et du coup, pour toi, Gâteau, elle était inévitable, comme pour Basto, elle était inévitable, en fait, cette dépendance.
Bah, une fois que ton mercato est terminé, comment tu t'organises? Qui est le numéro 2 par rapport à Ugarte? Ugarte, on sait que c'est un gars qui est dans la défense. Est-ce que tu fais redescendre Zaïre Emery? On voit que c'est un peu plus compliqué pour lui sans Ugarte. Vitinha, il ne peut pas faire ça. Qu'en est-il de Fabian Ruiz? Qu'en est-il de Danilo Pereira? On voit qu'il y a un gap quand même entre ce que Ugarte apporte dans l'activité. Et ce que Danilo Pereira pourrait apporter, c'est pas en réalité c'est le même poste, mais c'est pas forcément le même style, c'est pas la même agressivité. Danilo Pereira, peut-être sur le genou, ce sera meilleur, même si Ugarte nous a montré de très belles passes face à l'Olympique de Marseille. Malheureusement, tu commences à le voir, puisque contre Nice, tu as été en difficulté au milieu de terrain. Maintenant, il y a aussi un mercato d'hiver, il y a toujours des joueurs dans des grands clubs qui sont en difficulté, que tu pourrais peut-être récupérer un truc comme ça. Il faudrait voir selon les réels besoins. En tout cas, là, on est déjà en train de se dire, espérons qu'il ne se blesse pas.
Basto, je vais enchaîner avec toi. On va partir sur une petite minute tactique. Est-ce que pour toi, le 4-2-4 qu'on a vu contre Marseille est l'arme ultime qu'on va utiliser cette saison contre les blocs bas?
Non, je pense pas. Je pense que c'est circonstanciel au changement de système de l'OM. Alors quand une équipe joue avec 3 DC, ça peut être intéressant de jouer avec 2 pointes. Maintenant, ce n'est pas une question de bloc bas, c'est plus une question de système adverse. Ce sera plus une solution, je pense, qu'on utilisera de manière sporadique qu'une vraie arme atomique qu'on a trouvée parce qu'on a gagné contre Marseille. Donc, je pense qu'on le reverra, mais pas tant que ça.
Et pour toi, Gâteau, du coup, ces solutions pérennes, c'était vraiment, comme pour Pasto, très ponctuel. Est-ce que tu as vu des choses intéressantes que tu aimerais voir dans d'autres circonstances avec ce 4-2-4?
Non, le 4-2-4, c'est super dangereux. Il y a si tu as des gars qui sont un peu plus adroits devant du côté de Marseille et qui sont un peu plus rugueux défensivement, ça peut être très dangereux. Là, contre un bloc bas, ça peut être utile, mais c'est vraiment circonstanciel, comme l'a dit Basto. Donc, je ne vais pas paraphraser, mais il faut vraiment
Rico.
revenir à un 4-3-3 si besoin. Là, il n'y a pas se
C'est
baser sur un
passe
4-2-4.
la main. Qu'est-ce que tu veux dire, Basto?
Passe la main, non, gâteau. Je sais pas,
Bah,
moi, il est en.
ah, j'ai
Il
parlé,
est en
j'ai
mode
parlé,
dégagement.
j'ai parlé. Il entendait très bien parler, c'est toi qui n'entendais pas. Bah,
Je vois plus.
on va enchaîner avec Rico. Tu entends Basto ou pas du tout?
Ouais, non, c'est juste que je ne voyais plus gâteau. Il y avait un rond
Non, non,
blanc
non,
qui tournait.
non, c'était chez toi, c'était chez toi. Bah, Rico, justement, toi, le 4-2-4, est-ce que pour tout le monde, pour toi aussi, c'est le 4-3-3 all the way ou le 4-2-4, on sera amené à le revoir? Et si on est amené à le revoir, pour toi, dans quelles circonstances?
Oh, on sera amené à le revoir, je pense. Déjà, les matchs où on est mené, où on n'arrive pas à déverrouiller un score, je pense que ce soit en LDC ou en Ligue 1 contre un gros club, je pense qu'à un moment donné, si on est en difficulté ou qu'on n'arrive pas à scorer, on le fera. Moi, je pense qu'on sera amené à le voir très souvent. Ça va, impeccable, merci. Je pense qu'on sera amené à le revoir très souvent quand même. Après, on parle de 4-2-4, mais on l'a très bien vu, hein. C'est une sorte de 3-3-4. Avec des ailiers qui sont quand même assez pistons. On a vu Barcola qui jouait relativement bas aussi. Donc, après, ça va dépendre aussi des joueurs que tu as à disposition. Mais moi, je pense qu'on va le revoir souvent. Je pense qu'en Ligue 1, on va le revoir très souvent. Maintenant, oui, c'est sûr qu'on peut s'exposer aussi. Mais si collectivement, on est bien en place, si à la perte du ballon, on fait le boulot comme il faut, et on le voit par exemple avec Mbappé, c'est pas pareil à la perte du ballon. Mais ouais, je pense qu'on va le revoir très souvent. Après, dans les gros matchs de Ligue des Champions, je pense pas. Mais en tout cas, même au niveau de l'animation, c'est quelque chose que je pense qu'on verra très souvent. Même si sur le papier, on ne nous présente pas l'équipe aussi offensive que ça, par exemple. Si jamais, bon, on le voit déjà, par exemple, avec Vitinha, hein, qui est souvent côté gauche. Donc non, je pense qu'on va revoir ça très souvent, plus contre les petites équipes. Et quand on est mené, je pense que dans les gros matchs de Ligue des Champions, non. Mais c'est quelque chose qu'on reverra souvent, j'en suis certain, parce que face à des blocs bas, c'est une arme fatale pour moi.
Et tu peux imaginer, ouais, juste tu peux imaginer aussi dans ce système, comme tu dis, un peu sur le papier, qu'un 4-4-2, mais dans les faits, souvent une défense à 3. Tu peux imaginer Nuno à la place de Barcola dans un système comme ça pour avoir un
Totalement.
peu plus d'équilibre défensif.
Ok, bah, très rapidement, Rico enchaîne. Enfin, je pense qu'on va pas passer 10 ans là-dessus. Pour vous, c'est standard si Kolo, Hakimi et Dembélé se prennent un match là ou pas?
J'ai envie de dire oui et non, en fait. Oui, pour moi, oui, parce que ça peut se sanctionner. C'est, voilà, le football, maintenant, on le sait, c'est très regardé, les jeunes, etc. C'est pas montrer l'exemple que d'insulter de cette manière, même si c'est un champ. Mais les joueurs se doivent de se montrer exemplaires. Je peux comprendre qu'ils prennent un match. Malheureusement, c'est très souvent avec le Paris Saint-Germain, deux poids, deux mesures. Là, c'est. Oui, mais. Ouais, non, moi, ça c'est le genre de truc qui me dérange. Quand il y a d'autres joueurs comme ça qui insultent ou qui reprennent des chants insultants, on dit rien. En tribune, non plus. Et puis quand c'est le Paris Saint-Germain, je trouve que c'est toujours le bon moment pour monter au créneau, pour se faire connaître. La ministre, personne ne connaissait son nom. Voilà, elle a eu son petit moment de buzz. On sait qui c'est
On parle
aujourd'hui, on
pas de la
connaît
même
son
chose
prénom.
là, Rico. Hein. On parle pas de la même chose. La ministre, elle a fait, et là, je te rejoins à
Oui, c'est sur les champs
200%. Elle a parlé
du.
des chants en
Ouais, mais
tribune.
moi,
Là, on
j'en.
parle des chants des joueurs.
Bien sûr.
Franchement, les trucs des chants en tribune, le PSG qui est, ouais, à chaque fois, tout le monde va parler pour essayer de se faire mousser. Ça, on va même pas en parler tellement c'est tiltant. Et c'est vraiment juste le focus sur les trois joueurs.
Ok, eh ben alors si c'est uniquement les joueurs, pour moi, il n'y a pas de souci. Après, je veux que tous les joueurs soient sanctionnés au même titre, mais ça ne me dérange pas. En tout cas, ça ne me choque pas qu'ils prennent un match de suspension.
Gâteau, tu veux réagir vite fait sur les
Moi, je trouve
joueurs?
qu'il y a une différence avec l'exemple que vous avez sorti, notamment Taïtaïro. Taïtaïro, il a dit au micro, dans tout le stade, il s'est fait entendre par tout le stade,
Ouais,
c'était
c'est
une
pas faux.
évidence. Donc là,
Ouais,
la
mais.
sanction, oui. Alors, oui, il le dit, les deux ont insulté, mais ils n'ont pas insulté avec si tu veux, avec le même écho. Les deux situations elles sont les mêmes, mais l'un a pris le micro, insulté clairement les gens, les autres ont insulté clairement les gens, mais ils n'ont pas pris un micro pour se faire entendre par tout un stade. Et Taïwo, c'était à Marseille ou c'était même au Stade de France, si je ne me rappelle pas,
Au
faut
Stade de
savoir ça,
France.
tu vois. Et est-ce
Mais
que le match en plus contre le PSG, je suis même pas sûr. Donc il y a
si,
plein de
je
trucs,
sais même plus.
je
Je
sais
crois que
même
c'est
plus. Parce qu'on n'a
peut-être
pas
Paris.
perdu de finale contre Marseille,
Ah
nous.
non, c'était pas contre Paris, ouais, c'est parce qu'ils montaient à Paris en finale de coupe. Ah oui, c'est ça, oui.
Tu vois? Donc voilà. Et là, bon, après, il faut remettre les choses dans son contexte. Oui, les insultes, machin, ça fait partie du football, moi, qu'ils soient sanctionnés. Très bien. Si c'est le cas, ok. Par contre, il va falloir faire la même loi partout, dans tous les stades. Et ça, c'est là où j'attends la Ligue. Parce que, qu'on fasse en premier avec le PSG, tu me diras, c'est gênant parce que ce sont des joueurs de machin. De chez nous, et puis ça va nous handicaper à un moment ou à un autre. Bon, un match, tu me diras, ok. Mais par contre, si vous commencez à sanctionner comme ça, il faut sanctionner partout de la même manière. Et là, c'est là où je les attends. Donc attention, en réalité, c'est la ligue qui prend plus de risques qu'autre chose.
Et toi, Basso, vite fait pour conclure sur ce sujet.
Pour moi, c'est normal, le folklore doit rester dans le stade, et pas ou les joueurs dans le vestiaire, mais pas dans un cadre public. Ils ont manqué de recul dans l'euphorie, les 4-5 joueurs qu'on fait ça. Après, il y a eu des exemples hors Paris, hors Marseille. Je me souviens très bien des Lyonnais qui avaient chanté une chanson contre les Stéphanois. Il me semble que la misère serait de supporter les Verts. Boum, les 8 joueurs avaient été sanctionnés d'un match, bon, avec sursis à l'époque et d'une amende. Donc, c'est des choses qui existent dans plusieurs clubs. Et c'est rare, en fait, de voir finalement des images de joueurs qui insultent au micro. Mais ça, on ne le voit pas souvent. Là, il y a les images qui sont sorties. C'est dans le règlement intérieur de la Ligue. Bon, bah, ils seront sanctionnés. Pour moi, c'est logique.
Juste pour préciser, pour Cyril Foriou, on parle vraiment du fait que ce soit les joueurs qui aient fait un chant. On ne parle pas justement de ce qui s'est passé dans le public, etc. etc. Ou effectivement, comme le rappelait Recoba, il y a une déclaration de la ministre qui était complètement hors sol par rapport à ce qui se passe dans les autres stades. On va enchaîner avec toi, Gato. Il y a une gestion qui a un petit peu interpellé, qui a commencé par une mise sur le banc au premier match. Et on a un Marquinhos. Est-ce que pour toi déjà, est-ce qu'on a retrouvé le Marquinhos, le grand Marquinhos? Et est-ce que, à tes yeux, la gestion de Lucho concernant Marquinhos a été parfaite?
Voilà, et sur Luis Enrique concernant Marquinhos, elle est parfaite parce qu'elle le remet, comme on l'avait déjà dit avec Basto, dans de bonnes conditions. C'est plutôt Galtier avec les joueurs aussi qui n'étaient pas concernés par la défense, toute l'animation défensive qui était absente l'année dernière, qui mettait en lumière ses défauts. Tous les défenseurs ont des défauts. Mais là, il devait faire du 2 contre 1 constamment, était concentré sur pas mal de points. On lui a vraiment voulu. Marquinhos, dans ses déclarations, sur le terrain, il a un peu failli, mais on était énervé. Il y avait peut-être des mots qui sont sortis qui étaient durs au moment où, mais avec le recul, on sait que ce n'était pas forcément que lui. Par contre, moi, où j'attends Marquinhos, ce n'est pas forcément dans ces matchs-là. Moi, c'est dans les grands rendez-vous. Il faut qu'il prenne sa revanche du Real. Il faut qu'il prenne sa revanche du Real, parce que le Real, ça lui a fait tellement mal. Il avait eu des grands matchs aussi par le passé, contre Leipzig où il met des buts, contre le Bayern même aussi, il avait marqué là-bas. Voilà, donc on sait que ce ne sera pas le grand leader. Par contre, là, ce qui est bien, c'est qu'il est aidé par Skriniar, il est aidé par Hernandez pour assurer la défense et Hakimi qui revient très, 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 très bien. Là, je pense qu'on va pouvoir retrouver un Marquinhos très intéressant comme on le voit maintenant. Moi, j'attends dans les très grands matchs, en tout cas pour le début de saison, Monsieur Chapeau. Chapeau et félicitations.
Rico.
Oui, je pense qu'il l'a mis dans les meilleures conditions déjà, comme l'a dit Gato, par rapport au collectif. Parce que l'année dernière, tu mets Lucas Hernandez, tu mets Skriniar, c'est pareil, hein, ils sont en difficulté totale. Donc c'est surtout ça, on a retrouvé un vrai collectif qui défend tous ensemble. Donc forcément que ça aide les défenseurs. En plus de ça, il a été petit à petit. Il y a la concurrence forcément qui a boosté Marquinhos aussi. On sait qu'il y a des joueurs comme ça qui sont dans un fauteuil dans certains clubs et qui ont besoin à un moment donné d'avoir de la concurrence. C'est légitime, c'est comme ça, c'est l'être humain. Il ne va pas forcément aller chercher plus loin, plus haut. Mais quand il y a quelqu'un qui pousse ça, eh ben, pour un joueur de foot, forcément, tu vas aller plus haut, chercher plus haut et tu redeviendras un top joueur. C'est ce qui est en train de se passer. Et puis surtout, il lui a laissé le brassard. Il y a eu un vote, on lui a laissé le brassard. Ça aussi, ça fait du bien, je pense, mentalement. Ça montre qu'on compte sur toi, ça montre que bah, on veut que ce soit toi notre capitaine, notre leader. Donc forcément que ça le réveille aussi, ça lui remet une petite piqûre de rappel pour lui dire que voilà, c'est toi le capitaine du club, ça fait des années. Donc maintenant, il faut que tu tires tout le monde aussi avec toi vers le haut, tu ne peux pas te relâcher. Donc ça, c'était un message aussi très fort. Et puis après, naturellement, on connaît ses qualités sur le terrain. Ça, on n'avait pas de doute là-dessus. Maintenant, comme l'a dit Gato, on va l'attendre dans les grands matchs. Il va falloir qu'il prouve que c'est un leader, un grand joueur. Mais je pense qu'il sera bien aidé par des mecs à côté comme Skriniar, comme Hernandez, même avec Ugarte devant lui, ça fait du bien. Donc j'ai pas de doute personnellement, je pense que ça va bien se passer. Mais comme on l'avait dit l'année dernière, voilà, sans équilibre c'est compliqué. Et là au moins et sans concurrence aussi, là au moins il y a tout ça qui est réuni. Donc je pense qu'il y aura une grande saison de Marquinhos.
Et avant de repasser la main à Basto, il y a pas mal de gens qui nous demandent de vous le rappeler, mais en vrai, ça vous coûte rien. Vous prenez 2 petites secondes pour poser votre like. Et même si vous êtes là, vous êtes dans le replay, en vrai, si on en arrive là, ça fait 24 minutes que vous êtes avec nous. Clairement, vous vous faites pas chier, quoi. On va appeler un chat un chat. Donc, vous faites une petite pause. Enfin, vous sortez du plein écran, vous appuyez sur le petit like. Nous, ça nous aide, ça nous permet de propager notre truc et d'ailleurs de nous développer. Et à ce titre-là, n'hésitez pas à check dans la description de la vidéo. On a ouvert une petite cagnotte parce qu'on a envie de faire des lives. On compte sur vous. N'hésitez pas à participer. Basto, je te relance sur Marquis.
Ouais, pas grand-chose à redire. Hein. Complémentarité, sécurité avec Ugarte, Lucas et Skriniar. Donc Marquis redevient Marquis comme quand il était bien entouré. Ce qu'a dit Reco sur le conforter en tant que capitaine, c'est vrai. Je pense que ça aussi, ça donne de la confiance. Et le fait qu'on fasse partir Neymar, Verratti et que lui soit toujours là et en tant que capitaine, forcément, il va pouvoir...
Il était capitaine la saison précédente.
Il était capitaine. Mais il y avait Neymar, il y avait Verratti, il y avait machin.
Et il y a autre chose que sur laquelle je voulais réagir dans ce qu'Angato disait, c'est que cette année aussi, mine de rien, il se retrouve à défendre et à droite et l'axe, parce qu'on a un système un petit peu déséquilibré et clairement il continue d'avoir la double responsabilité. Alors c'est un peu mieux cadré que l'année précédente, mais néanmoins il y a quand même eu un shift mental entre cette saison et la saison précédente.
Ah, moi j'attends de voir Germinal. En fin de compte là il a des éléments qui font qu'il est un peu mieux et c'est logique qu'il soit mieux. On le félicite pour ça, il n'y a pas de souci. Quand on dit que c'est mauvais, on le dit. Quand on voit que c'est mauvais, on le dit. Quand on voit que c'est bon, on le dit aussi. J'attends de voir dans les grands rendez-vous. Là où le ment. On sait que physiquement, c'est un joueur qui. Pas de problème. La relance, les interceptions, la rapidité, tout ça, ça, c'est pas question de physique. C'est question de mental. Dans les grands rendez-vous, dans les moments chauds. Et là, on a besoin de voir. Par rapport à la saison précédente, tu as vu le marasme du milieu de terrain. Où Solaire pouvait jouer des rôles clés. Non, là, il y a des Ugarte, il y a qui vont bien défendre et tout. Non, c'est pas du tout la même chose.
Il y aura un bon premier test face à. Je ne sais pas si on va jouer Monaco avant, mais il y a le Milan AC aussi qui a quand même un Giroud et un Leao. Je pense que ça va être un bon test pour Marquinhos déjà là-dessus. On verra ce que ça va donner.
On va enchaîner justement avec toi, Reco. On a un joueur qui a enfin mis ses premiers buts, et pour un 9, mine de rien, ça compte. Est-ce que pour toi, Gonçalo Ramos a lancé sa saison ?
Oui, je pense que pour un buteur, c'est hyper important de marquer son premier but. En plus de ça, il met un doublé au parc, pendant le Classico, il y avait Pauleta qui était là. Je pense que voilà, tout est réuni, on a vu la joie, même on a bien vu avec Colomwani, les deux étaient super contents de marquer, de faire marquer l'autre, que l'autre marque. Donc je pense qu'on voit bien qu'il y a une concurrence quand même très saine. Je pense qu'ils savent tous les deux qu'ils vont beaucoup jouer cette saison, qu'ils ont des profils qui sont adaptés à certains adversaires, pas d'autres. Donc je pense qu'ils voient bien qu'il n'y a pas un numéro 1 et un numéro 2. Il y a vraiment deux solutions différentes. Ils peuvent même jouer ensemble et ils ont montré d'ailleurs qu'ils étaient hyper complémentaires. Donc je pense qu'ils vont faire une bonne saison tous les deux. Ils vont apporter des choses différentes tous les deux. Et je pense que pour la question des 20 buts pour Gonçalo Ramos, je pense que oui, il atteindra cette barre. On voit que c'est un grand buteur. Il va avoir énormément de solutions, surtout quand on voit le nombre d'occasions qu'on arrive à se créer. Donc oui, j'en doute absolument pas.
Je vais te lancer Basto et évite le troll par rapport à Colo, parce que sinon on va
pas. Parlerai pas de Colo, la question est sur Ramos. Non, Ramos, c'est important dans un match comme ça, surtout où tu rentres pour remplacer Mbappé. Où c'est là, tu vois, c'était important de. Il a l'occasion, alors qu'il était sur le banc, il aurait peut-être joué que 10-15 minutes. Là, il a l'occasion parce qu'Mbappé se blesse. Et boum, il met son doublé. Et au-delà des deux buts, qui sont des vrais buts de neuf, comme on attend, je l'ai trouvé très intéressant dans ses appels, contre-appels aussi, pour embarquer des défenseurs. Et sur certaines remises, jeu dos au but aussi, c'est ce qu'on attendait de lui. Donc, au-delà des deux buts, il a eu cette panoplie qu'on attend de lui. Et oui, les 20 buts, toute compétition confondue, tout le monde aura du temps de jeu, il les aura, oui, je pense. Sauf grave blessure, je ne me fais pas de soucis là-dessus.
Et toi, Gâteau, du coup ?
Wow, comme le dit Zach dans les commentaires, j'ai beaucoup aimé aussi son attitude au-delà de ses deux buts, la complicité avec Colomwani. Ils sont embrouillés, il aurait pu se dire, tu sais, les attaquants en plus ils sont vicieux, ils sont pas individualistes, hein. Il aurait pu dire, ah, il s'embrouille, tiens, on va le dire qu'il a un mauvais comportement, c'est peut-être mieux pour moi, comme ça moi je vais rejouer un peu plus. Non, il est venu calmer, quand il a marqué, parce que Randal Colomwani a pris la balle, il a marqué, mais Gonzalo Ramos aurait pu exactement marquer puisqu'il aurait pu le laisser, et ben justement après il a fait une passe décisive. Moi, j'aime beaucoup cette complicité-là, l'attitude qu'il a montrée. Ce n'est pas forcément facile de rentrer contre l'OM, même si tu mènes 1-0, etc., parce que c'est un match où tu es vraiment attendu. Donc, il a bien fait les choses. Il fallait débloquer son compteur but. Il devait le débloquer en Champions League, mais il a eu un hors-jeu, malheureusement. Mais c'est tout bon pour nous.
Ouais, surtout qu'il pourrait ronger son frein parce qu'il démarre pas contre Dortmund, il démarre pas contre Nice, je crois, juste avant.
Si, si, il démarre contre Nice, mais avec l'équipe un peu bis.
Il démarre pas Dortmund, il démarre pas l'OM. Donc,
au bout d'un moment. Lyon, je crois qu'il était un peu blessé ou je ne sais quoi.
Bon. Donc, il pourrait ronger son frein, mais au final, non. Mais c'est là que tu vois quand même que le discours de l'entraîneur et ce qu'il fait, c'est hyper important parce que Luis Enrique a déclaré très clairement qu'il y avait pour lui une vingtaine de titulaires, je crois, 20 ou 23 titulaires, je ne sais plus le nombre qu'il a dit. Mais c'est là que tu vois que c'est vrai et c'est là que tu vois que les joueurs l'ont compris aussi. Parce que quand tu vois qu'ils jouent, quand tu vois qu'ils sont ensemble, il n'y a pas de problème. Alors après, c'est le début, tout est beau, tout est rose, etc. Peut-être qu'au fur et à mesure de la saison, s'il y en a un qui prend le pas sur l'autre et qu'il y en a un qui joue beaucoup moins que l'autre, ça peut être un peu plus compliqué. Mais en tout cas, pour l'instant, la gestion, elle est parfaite et ça se voit dans leur attitude.
Et j'ai envie de vous poser le corollaire pour parler de Kolo Muani. Est-ce que Kolo Muani, sur un côté, c'était pas mille fois mieux ? Comment est-ce qu'il veut ?
Moi, je veux bien parce que c'est quelque chose que j'ai dit à son recrutement. Moi, je préfère Kolo Muani à droite parce que je trouve que quand il est devant et qu'on a voulu le prendre en pointe, alors là, il y a Gonçalo Ramos, donc ça me rassure, mais quand on a voulu le prendre que lui en pointe, même pour moi, je ne comprenais pas parce que c'est un neuf, mais qui s'excentre tout le temps côté droit. Et Mbappé, c'est la même chose. Quand il joue en pointe, il s'excentre tout le temps côté gauche. Du coup, tu te retrouves avec personne dans la surface. Et on voit avec les qualités de Kolo Muani, oui, c'est quelqu'un qui peut jouer neuf, mais neuf seul en pointe, c'est pas pareil. Bien sûr qu'il peut marquer, bien sûr qu'il a des qualités, etc. Mais il apporte pas la même chose. À droite, c'est totalement différent. Et moi, je trouve qu'à droite, il apporte vraiment des choses hyper intéressantes. En plus, c'est quelqu'un qui va rentrer quand même souvent et qui est proche de l'attaquant. Ça libère le côté aussi pour un autre joueur, que ce soit un Dembélé ou un Kimi ou les deux. Donc ouais, moi, RKM, je préfère à droite personnellement avec un Gonçalo Ramos en pointe. Et on a vu d'ailleurs quand ils jouent tous les deux ensemble, c'est hyper complémentaire et Kolo Muani est très très aidé par le fait d'avoir un vrai neuf comme Ramos en pointe. C'est un peu comme Mbappé avec Giroud, avec Falcao, etc. Donc pour moi, en fait, le profil de Kolo Muani, c'est le même qu'Mbappé. Simplement, Kolo Muani, c'est à droite et Mbappé, c'est à gauche. Donc, je préfère avoir un vrai neuf en pointe plutôt qu'un des deux.
Est-ce que quelqu'un veut réagir là-dessus ou sinon, j'enchaîne avec le corollaire. Est-ce que... vas-y, basse-toi.
Ouais, faut quand même que je dise du bien de Kolo Muani de temps en temps. Kolo Muani, oui, clairement, comme dirait Koba, à droite. Et même, je trouve qu'il profite plus de sa vitesse quand il part d'un peu plus loin sur le côté, comme on a vu sur le dernier but. Que quand il est plus haut sur le terrain et qu'il doit utiliser la vitesse lancée. Je le préfère en vitesse de plus bas sur le terrain qu'en vitesse lancée. Je trouve ses appels moins bons en pointe.
Mais justement, enfin, la question qui est sous-jacente, c'est qu'on a énormément de joueurs de transition. Est-ce qu'on peut faire vraiment l'impasse sur un attaquant qu'on va qualifier de positionnel par opposition à transition, Gâteau ?
S'il fixe ses défenseurs, il va permettre aux autres de prendre de l'espace. Alors, en soi, ça se trouve qu'il n'a même pas touché la balle de l'action. Il va occuper, il va attirer l'attention des défenseurs centraux. Ça permet aux ailiers de pouvoir prendre l'espace, coulisser, centrer, combiner un peu sur les côtés, ou même gagner du temps. C'est-à-dire que des fois, tu as les défenseurs centraux qui vont avoir la balle, ils vont aller à la relance. Le fait est qu'il y ait Ramos, ça va freiner un petit peu. Ils vont devoir jouer sur le côté pour relancer, faire des sorties de balle autrement. Donc ça peut être bien un pivot comme Ramos et Kolo Muani sur le côté aussi, j'aime beaucoup. Moi j'avoue, si tu pars sur un 4-3-3, Kolo Muani, Mbappé à gauche et Ramos en pointe, ça ne me dérange pas du tout. Ça ne me dérange pas du tout. Et c'est une concurrence saine pour Dembélé qui va devoir aussi s'employer, même si on a vu des choses intéressantes dimanche.
Mais justement, avec les profils qu'on a, est-ce que ça fait sens de se priver ou de Ramos ou d'Asensio pour te retrouver surtout dans un 4-3-3 avec trois joueurs de transition ? Quel est ton point de vue là-dessus, Rico ?
Ça dépend. Non, je pense que dans le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui, pour moi, il faut quand même un Ramos ou un Asensio. D'ailleurs, ça a très bien marché avec Asensio. Ça fait briller tout le monde, que ce soit au milieu ou les ailiers. Pour moi, ce sera la même chose avec Ramos. Et on l'a vu, ça fait briller tout le monde autour. Alors après, peu importe le système, que RKM joue à côté d'un ou Mbappé joue à côté d'un Ramos et qu'on ait un Barcola à gauche ou que RKM joue à côté d'un Ramos et qu'on ait un Dembélé à droite. Peu importe, mais non, pour moi, ce serait dommage de se priver d'un Asensio et d'un Ramos en pointe, sachant que ça fonctionne bien et que ça fait briller tout le monde autour et qu'eux aussi brillent, il faut quand même le dire. Alors que tu vois quand même que quand c'est RKM seul en pointe, ou même on l'a déjà vu avec un Mbappé seul en pointe, c'est pas pareil, c'est plus compliqué. Quand tu es vraiment en bloc bas contre un Bayern, par exemple, ça peut faire sens, ça peut, voilà, mais là, pour le coup, avec ce qu'on met en place et ce qui se passe, non, je ne pense pas que ce soit la bonne solution.
Et toi, Basso, side note, hein, tu peux toucher les deux mots du petit joueur de petit nouveau duquel tu es fan, ça en parle partout, ça débat. Est-ce qu'on peut l'avoir en L1 ou LDC, Barcola, en deux mots? Et après, je te lance sur l'interview de Nasser.
Vas-y, Basso. Moi, Barcola, évidemment, Barcola, c'est une de mes recrues préférées de cet été. Je l'ai trouvé très intéressant à Lyon, dans le sens où ce qu'on voit à Paris, c'est la pression. Il n'a pas l'air de la connaître. Première titularisation contre Marseille, il n'a pas peur du tout. Son entrée à Lyon, il n'a pas peur du tout. Puis c'est surtout cette simplicité pour quelqu'un qui n'a qu'un an en pro, c'est qu'il n'y a aucun geste superflu. C'est toujours le geste qu'il faut faire. C'est quelqu'un de très collectif, que ce soit avec et sans ballon. Donc Barcola, tu sens qu'Enrique l'adore. Hein. Il le voulait, c'était une priorité. Il le met direct contre Marseille. Barcola aura aussi beaucoup de temps de jeu et je pense qu'il peut débuter des matchs de Ligue des Champions. Oui, je pense qu'il est prêt.
Et justement, on enchaîne par rapport à l'interview de Nasser.
Ah, l'interview de Nasser. Tu veux sortir des phrases?
Par exemple.
Non, Nasser a juste centralisé très rapidement. Nasser a juste centralisé la chose sur il faudrait rajouter un petit drapeau français à côté de l'écusson Ligue des Champions parce que Paris, c'est la France, c'est le projet français. Donc, il a recentralisé ça, tu vois, il a remis une couche sur vraiment maintenant son nouveau projet. C'est Paris doit être la fierté des Parisiens et de tous les Français. Donc, on est dans le même discours qui martèle depuis 6 mois. Je trouve ça peut-être un peu too much. Je ne vois pas d'autres clubs français mettre le drapeau français en Ligue des Champions ou des clubs italiens avec le drapeau italien. Enfin, je pense qu'il en fait un peu trop, mais bon, c'est pas gênant.
Vas-y, Rico.
Ouais, je partage son avis. Moi, ça me dérange pas. Qu'il y ait le drapeau français ou pas, ça peut être une bonne idée. Bon, après, peu importe, c'est le discours de fond qui compte. Et le discours de fond, moi, j'aime bien. C'est le discours qui, comme a dit Basso, qui est là depuis 6 mois. Mais moi, je trouve ça intéressant parce que c'est important de faire rayonner le PSG en France. On sait qu'on est un club qui n'est pas forcément très aimé, même si on a une grosse fanbase. Mais surtout, ouais, c'est un discours en fait pour préparer l'avenir et pour que tous les petits jeunes aiment le Paris Saint-Germain et aient envie plus tard de réaliser leur rêve qui est de jouer au Paris Saint-Germain et qu'on puisse récupérer ces jeunes-là et qu'ils puissent exploser chez nous tout simplement. Donc j'aime ce discours, j'aime cette façon de penser et je pense que c'est le bon chemin.
Gâteau.
Ouais, c'est pour moi un peu de com. Comme mettre le drapeau français, je vois pas forcément l'utilité. En tout cas, moi, je suis pas contre, mais je suis pas forcément pour non plus. Après, il y a l'équipe nationale pour ça, hein, pour représenter la France. Il y a des autres équipes aussi en Coupe d'Europe. Chaque club a son histoire. Le Paris Saint-Germain n'est pas représentant de la France en Coupe d'Europe. C'est parce qu'en général, on reste le dernier club qualifié que ça fait de nous le représentant de la France forcément en Coupe d'Europe. On se représente nous-mêmes parce qu'en général, la France, ou bien les autres clubs français, les autres représentants français, aime bien nous voir perdre en Champions League, par exemple, et nous rayonner depuis tant d'années. Donc non, moi, je suis pas forcément d'accord pour ça. Ça me gêne pas non plus, hein, c'est du marketing, ça va faire vendre des maillots, bien sûr. Le meilleur moyen pour moi que la raison de Recoba, de faire en sorte que les joueurs ou les jeunes se sentent concernés par le PSG, c'est déjà de travailler avec ces clubs-là, en faisant des transferts vraiment déjà dans le pays. Après, c'est encore un autre débat, mais là, tu peux te faire concerner les gens. Par exemple, on a pris Barcola. Il vient de Lyon, il arrive à Paris. Il n'y a pas eu trop de soucis. Il y a d'autres joueurs aussi qui pourraient venir travailler avec les clubs français. Mais de là, à faire mettre le drapeau, ouais, c'est un peu comme pour moi. Après, c'est un président, hein. C'est aussi un politique, Nasser. Donc, il faut qu'il se fasse bien voir. Il a raison un petit peu.
Oh, merci, Swapper.
Un grand merci à Swapper. Excuse-moi, Gâteau, je te coupe la parole.
Gros d'honneur, Swapper. Merci beaucoup.
Il est juste là pour défendre le PSG et l'institution. Et vas-y, je te laisse continuer. Excuse-moi.
Non, mais j'avais fini. Et puis, Swapper, il a utilisé ses termes. Mais moi, c'est le. Il y a l'équipe nationale pour représenter la France. Pas de problème. Et après, si d'autres personnes veulent nous supporter quand on va en Champions League, il n'y a pas de souci. Voilà, on souhaite du bon courage à Rennes, bon courage à Toulouse. C'est pas des clubs ennemis. On n'est pas supporters de ces clubs-là quand ils sont en Coupe d'Europe, mais on leur souhaite bon courage. Mais eux non plus ne sont pas supporters de nous quand on va en Coupe d'Europe. Donc chaque région a ses clubs, mais il y a l'équipe nationale pour représenter la France. Et c'est pas le PSG qui représente la France.
Après, il y a quand même, tu vois, par exemple, il y a une différence de traitement quand tu regardes en Angleterre, dans les coupes européennes, ou en Espagne, dans les coupes européennes, au niveau de la presse, et puis même au niveau de la presse qui n'est pas spécialisée, va y avoir un côté, quand tu vas avoir Marseille qui va. Il y a un côté où, si ce n'est pas le club de Paris, ça va quand même trouver plus d'adhésion, et quand tu es à Paris, tu. Et donc, tout ça génère quand même une certaine frustration, et peut-être que Nasser le fait pour essayer de compenser ça, enfin, réévaluer l'image, etc., etc., etc. C'est
Ouais.
ce que je me dis,
Ouais,
quoi.
je pense que c'est...
Vas-y, Réco, vas-y, Réco.
Ouais, non, c'est juste ce que je voulais dire par rapport aux commentaires que j'ai vu passer. C'est vrai qu'il y a des maillots déjà ces dernières années où on a un petit drapeau bleu, blanc, rouge, une petite étiquette bleu, blanc, rouge. Le maillot que j'avais au dernier débrief, je l'avais remarqué d'ailleurs. Il y avait un maillot noir aussi qu'on avait porté en Ligue des Champions à Jordan aussi où il y avait le truc derrière, je crois. Mais non, simplement par rapport au fait que oui, on est d'accord là-dessus. Hein, le Paris Saint-Germain, en général, est un club assez détesté. On le voit aussi beaucoup sur Twitter notamment. Mais une petite pensée quand même, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Des gens qui ont beaucoup de sympathie pour le PSG. On en a aussi dans le chat, je pense à Samir notamment, qui est supporter de Lens et qui suit tous les débriefs du PSG, qui aime beaucoup le PSG. Et il y a énormément de supporters, moi j'en ai vu plein, même ici, voilà, il y a des gens qui sont pour l'Estac, pour Metz, pour Nancy, etc., et qui aiment beaucoup le PSG, pour Nantes, même d'autres clubs. Donc voilà, ces gens-là, il ne faut quand même pas les oublier, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de personnes qui ont beaucoup, beaucoup de sympathie pour le PSG.
Et ce PSG est d'autant plus aimable. Je voulais très rapidement réagir à la remarque de Brandskin. En soi, le débrief de Marseille, on l'a déjà fait. N'hésite pas à check dans l'historique des vidéos. Tu le trouveras sans aucun souci. On va pas le refaire
Et
une deuxième
dimanche soir à la fin du match, pour préciser.
fois. Ouais. Et c'est vrai que, comme tu disais, juste pour terminer, comme tu disais, l'image du PSG que tu donnes, elle est hyper importante. Parce que le PSG des dernières années, avec les Messi, les Neymar et compagnie, forcément qu'il est détestable. Alors que
Les
ce
gens
PSG
n'avaient pas envie d'y aller.
aujourd'hui, rien à voir. Exactement. Exactement.
Il y a une petite question. C'est dans un futur proche. Il y a un joueur que tout le monde ici, je pense, aime beaucoup, Nuno Mendes, qui va revenir. Et il y en a un Hakimi qui est très haut. Est-ce que pour vous, et qui est très très bon, on a un Hakimi qui fait peut-être son meilleur début de saison depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, et je pense qu'il n'y a même pas de doute sur la question. Est-ce que pour vous, ça va avoir un impact, et comment est-ce que vous voyez tout ça se rejouer à la fois au niveau tactique et au niveau humain? Qui veut commencer?
Bah écoute, vas-y, je vais y aller. Moi, je pense que, bah, en fait, c'est vrai que je me posais la question, comme beaucoup, mais quand je vois le dernier match, et notamment, on en a parlé, le positionnement de Barcola, je me dis que, bah, au final, ça peut être une bonne chose comme ça. Il peut très bien prendre la place de Barcola, même Barcola jouer un peu plus haut, ou peu importe, d'autres joueurs. Mais Nuno Mendes, dans ce système-là, peut aller très bien. Après, dans les grands matchs, comment ça va se passer? Je me pose la question. Mais c'est vrai que je suis curieux de voir comment ça va se passer. Après, sincèrement, quand on voit comment Luis Enrique se débrouille pour l'instant, je lui fais totalement confiance et j'ai juste hâte d'avoir le retour de Nuno et de voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, sur le dernier match, j'ai un peu moins d'interrogations et je me dis que Nuno Mendes peut rentrer parfaitement là-dedans et qu'au final, on se dirige, même si c'est pas sur le papier, même si voilà, on se dirige un petit peu vers un 3-5-2 ou une sorte de 3-4-3 ou quelque chose comme ça.
Ouais, et du coup, ça peut être une solution aussi quand Ougarté est absent, mettre carrément la 3DC avec Nuno et Hakimi en piston et avoir donc du coup, et sur le papier, dans les faits, une défense à 3. Donc il y a plein de solutions avec Nuno. Tu peux l'avoir sans Hakimi, tu peux le voir sur le banc et tu peux le voir avec Hakimi. Moi, je n'ai pas de souci là-dessus. Nuno et Hakimi peuvent jouer ensemble sans que ça déséquilibre l'équipe, je pense.
Ouais, puisqu'il faut penser, juste finir, c'est pas, en fait, il faut pas être, comment dire, strict sur 11 joueurs, quoi. Il faut vraiment comprendre qu'on a un effectif énorme, qu'il y a beaucoup de solutions, suivant l'adversaire, suivant les blessés, suivant la forme. Et au final, bah, un Nuno va jouer de temps en temps, Hakimi va jouer de temps en temps, enfin, souvent, mais voilà, vous entendez, il y a des fois, ils peuvent sortir, etc. Mais voilà, il ne faut pas se cantonner à se dire, OK, lui, il est titulaire indiscutable, il bouge pas, lui, il est titulaire indiscutable, il bouge pas. Il y a une vraie rotation, et ça fait plaisir.
Et toi, je te laisse y aller.
Ouais, parce qu'on aurait pu se dire Hernandez est un peu plus défensif, il reste un peu plus bas à gauche et Hakimi monte, ça crée un espèce d'équilibre où le milieu à gauche enfin à droite pardon, viendrait compenser. Tu aurais pu faire une autre paire avec Mendes qui monte et Mukiele qui reste un petit peu derrière aussi et quand il reviendra. Mais faut pas rester figé comme nous dirait Koba, il y a plusieurs types de matchs déjà. Tu risques d'avoir la possession assez souvent, donc tu peux te permettre d'avoir des latéraux hauts. Il y aura aussi des contres à mener, les deux sont rapides. Il y a des fois où tu as besoin d'un peu plus de physique avec Hernandez, peut-être sur l'aspect défensif. Peut-être que lui aussi va être mis dans l'axe. Bon, il y a moyen de le faire jouer. Il y a moyen de faire jouer les deux en même temps sans problème. Parce qu'on n'est pas dans le marasme de l'année dernière où les joueurs ont semblé être livrés à eux-mêmes sans aucune tactique. Là, non, là, il y a de la tactique. Il y a de l'exigence surtout.
Juste pour finir, le faut rappeler quand même que le Barça Prime de Luis Enrique, je crois que c'est Jordi Alba à gauche et Daniel Alves à droite. Donc au niveau offensif et même les problèmes défensifs.
Il y a Kevin qui dit Nuno va peut-être être testé en relayeur gauche dans le 4-3-3 d'Enrique. Ça ne m'étonnerait même pas qu'il le teste sur dans ce rôle et de mitigant, tu vois.
Et moi, ce que je voulais rajouter sur Nuno, c'est faut pas oublier l'année dernière, enfin quand il arrive, le mec il a toujours joué à 3, il a 2 mois qui sont un petit peu en délicatesse, il finit par comprendre le poste de latéral qu'il avait jamais vraiment pratiqué ou en tout cas dans une défense à 4. Et il masterise tactiquement le truc. C'est-à-dire qu'on a un joueur qui est à la fois très bon balle au pied, très bon dans ses prises de décision, mais aussi excellent tactiquement. Donc c'est un joueur qui saura comprendre très vite et très bien ce que Luis Enrique attend de lui. Et moi j'ai aucune inquiétude le concernant. On pourrait tout à fait le voir aussi faire du Lucas Hernandez un chouïa plus offensif, mais seulement un chouïa plus, et il pourrait apporter une vraie valeur ajoutée de cette manière-là, en ayant aussi en plus une capacité de relance très basse, parce qu'on sait que son jeu long est très très agréable.
Et puis finalement, c'est même une bonne nouvelle parce qu'on était très inquiets pour Nuno Mendes qui se blesse souvent, etc. On se disait on est peut-être un peu dépendant aussi et tout. Puis au final, on voit que ça se passe très bien sans lui et que collectivement, ça se passe bien. On a Hakimi à droite et tout. Donc ouais, Nuno sera un plus quand il revient. Mais au final, bah, sans lui, tu vois que ça se passe bien aussi. Donc tant mieux, on s'enlève un problème.
Ouais, parce que l'année dernière, on a forcé sur ses retours de blessure. On a vu ce que ça a donné.
Et sinon, bah, ça, moi, j'avais pas vu que le Real était sur Nuno Mendes, mais c'est tout à fait possible. J'ai noté quelques questions. Alors, j'ai noté déjà une remarque de Swapper qui disait que Germinal faisait pousser des plantes. Non, je me suis fait troller. C'était un troll de qualité. Donc, celui-là, j'ai envie de le mettre en avant. Si vous avez des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas. Je remonte dans l'historique pour essayer de trouver les questions.
Il y avait une question sur Zubimendi parce que j'en ai parlé tout à l'heure.
Bah, vas-y, lance.
Je demandais si. Il y a juste des rumeurs d'Espagne, comme quoi, bon après c'est la presse espagnole, c'est pas très fiable, comme quoi le PSG serait prêt à faire sauter la clause qui est à 40 millions, je crois, de Zubimendi dès cet hiver. Et Zubimendi, c'est un 6 différent d'Ugarte. Il peut aussi jouer 6-8, mais ça pourrait être une bonne solution à Ugarte. C'est aussi quelqu'un qui est assez intelligent dans sa défense en zone. Maintenant, il est un peu plus créatif, un peu moins dans l'interception et le harcèlement tout terrain d'Ugarte, mais par contre, il est très très fort dans les duels aériens. Donc c'est un autre profil de 6. Mais ça peut être une solution si Ugarte est blessé, même si c'est un jeu différent.
Et je voulais vous faire réagir là-dessus.
Oui, c'est vrai. Ça, c'est aussi le problème des croisés qu'il a eu, je crois, 2 fois. Donc physiquement, il est un peu plus. Ouais, c'est un peu plus compliqué de faire des différences. Après, il n'a jamais eu cette qualité de vitesse. Au niveau du dribble, c'est pas le meilleur dribbleur du monde non plus, mais c'est un joueur intelligent qui se déplace bien et surtout qui joue bien avec les autres. Et ça, c'est quand même le football, savoir jouer avec les autres. L'important pour aller vite dans le foot, c'est de faire circuler le ballon. C'est pas les joueurs qui doivent circuler avec, c'est plus le ballon, c'est lui qui va le plus vite. Donc à partir du moment où il est intelligent, qui se déplace bien et qui sait faire de bonnes choses avec le ballon, il frappe bien, il marque. Ouais. Bon, y a pas de souci, il a fait des bons matchs avec le PSG pour l'instant. Ça peut être une solution même dans ce milieu de terrain. Ça peut être une solution en faux neuf, ça peut être une solution à droite, en super sub. Moi, je suis très satisfait d'Asensio pour l'instant. Par contre, c'est sûr que, comme on l'avait dit, à sa blessure, c'est lui le plus grand perdant parce qu'il y a du monde derrière.
Un gâteau.
Bah, écoutez, moi, je ne vais pas paraphraser, mais je suis là pas avec vous. Le truc, c'est quoi? C'est aussi, pour revenir sur Zubimendi, est-ce qu'il n'a pas des trucs à jouer importants avec la Real Sociedad? Parce qu'il joue à la Champions League, mine de rien. Je vois mal un gars qui joue à Champions League venir en hiver pour aller dans un autre club, pour se
réadapter. Ils sont éliminés.
Bah, ils sont éliminés. Ils ont fait un parcours, etc., contre l'Inter. Je ne sais pas exactement la tendance dans le groupe. Mais ça, il faudra voir.
Oui, non, mais j'y crois pas non plus cet hiver, personnellement.
Non, bah, j'y crois pas. Ça se fait tant mieux. Hein. Nous, ça nous fait un joueur de qualité en plus. Mais j'y crois pas trop.
Moi, je voulais juste vite faire réagir sur l'Asensio, c'est qu'un joueur, au-delà de sa capacité à faire des différences individuelles, il y a l'équilibre qu'il apporte à l'équipe, et justement, c'est le seul joueur qu'on a qui a un profil faux neuf, sur lequel, par exemple, un Mbappé peut complètement s'appuyer, et c'est le seul qui propose ça, et on l'a vu notamment contre des équipes, on l'a vu notamment le match contre Lyon, il est vraiment capable de sortir des masterclass où il est très utile, même si individuellement, tu le vois peut-être faire moins de différences d'autres joueurs. Il y a cette question qui est apparue, est-ce que pour vous, Hernandez est compatible avec Marquis?
Oui, je vois pas. Voilà. Alors oui, ça va manquer un peu de taille dans le duel aérien, mais oui, les deux sont très bons, ont beaucoup de qualités, assez similaires peut-être. Ils sont bons dans les duels, même si Hernandez, je pense qu'il est un peu plus fort sur l'homme. Marquis compense bien. Je pense que non, les deux sont compatibles. Il va peut-être manquer un peu de taille dans les duels aériens, mais sinon les deux sont ultra complets.
Basso.
Non, rien à rajouter.
Et toi, Gâteau ?
De même.
Bon, bah, a priori, on n'a plus trop de questions. On a Jackson qui nous dit que Zubimendi, c'est vraiment, en gros, ses profils remplacés Marco Verratti. Il y a Valbej, j'arrive pas à retrouver, qui dit liker. C'est vrai qu'on est pas mal là en live. On n'a pas assez de likes, les gens. On n'a pas assez de likes. On en a besoin. Ça fait un peu, c'est un peu fatigant de faire la cata par rapport aux likes. Mais c'est juste, on en a besoin, en fait. C'est comme ça que YouTube marche. C'est comme ça que l'algo marche.
Tu seras suspendu un podcast avec ton roman.
mais on verra. Mais le fait que, enfin, si vous êtes toujours là après 50 minutes en replay, faites la pause, faites le like. On en a besoin. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose?
Bah juste pour sur Tanguy Ndiaye, j'ai vu passer. Est-ce qu'il peut jouer 8? Bon, on en a déjà parlé d'ailleurs sur le podcast, mais oui, ça a l'air d'être une solution viable parce qu'il a les qualités pour. Il a un gros abattage au milieu, il sait récupérer des ballons, il sait presser, donc être la première lame avec les attaquants de devant, ça peut être hyper intéressant. D'ailleurs, je crois que Luis Enrique, au dernier match où il est rentré, il a joué à ce poste-là. Et quand on voit tous les joueurs de côté qu'il y a, sachant que Tanguy Ndiaye jouait à ce poste aussi avec Mallorca, des fois à gauche et des fois dans l'axe, bah oui, je pense qu'il peut jouer à ce poste-là. En tout cas, on va voir ce que ça va donner, mais il est déjà rentré à ce poste-là, donc c'est une possibilité.
Et bah, y a une question sur Mbappé. J'imagine que c'est par rapport à la blessure, pas la blessure, son début de saison. Est-ce que vous avez des trucs à dire sur Kylian?
Simplement, justement, s'il pose la question, est-ce qu'on en parle, c'est que c'est pour moi une bonne raison, puisqu'il est blessé, on n'en parle pas. La saison précédente, on en parlerait parce qu'on est inquiet, là, c'est pas le cas, donc c'est une bonne nouvelle. Et sinon, concernant moi, c'était plus son rendement, je pense qu'il ne faut pas forcément s'inquiéter, parce que déjà, je crois, la dernière saison et peut-être celle d'avant, le début de saison était compliqué pour lui, même s'il marquait dans le jeu, c'était pas fou, il ratait beaucoup d'occasions. Là, on est sur à peu près le même début de saison où il stats, mais on attend beaucoup mieux de lui, et où voilà, c'est pas folichon. Mais je pense que petit à petit, voilà, ça va revenir. Il n'y a pas eu forcément de prépa de son côté. C'était un peu compliqué et tout avec le transfert et tout. Donc, je pense que petit à petit, ça va revenir.
Quelqu'un voulait réagir sur Kylian? Basto, Gâteau?
Non.
Moi, juste à dire un truc, c'est le jour où Kylian comprendra que s'il joue à côté de Ramos, il va pouvoir retrouver la position de 9,5 qu'il affectionnait tant à Monaco et que ça pourrait faire un duo, mais vraiment d'enfer, quoi. Donc, il accepte parce qu'ils ont fait une mi-temps entre tous les deux qui était un petit peu honteuse au niveau des passes. On avait un Ramos qui faisait des appels dans tous les sens et les passes qui venaient jamais, qui étaient extrêmement frustrantes. Qu'il apprenne à jouer avec lui parce qu'il a tout, mais vraiment tout à y gagner. On a une question sur l'inévitable, l'inénarrable qui n'arrête jamais, Kefren Thuram. C'était
ça.
D'Arlésienne. Est-ce que pour vous, il confirme les espoirs qui étaient placés en lui, Basto?
Non, enfin, que ce soit avec les espoirs ou avec Nice, je trouve qu'il stagne pas mal. Il a toujours ces mêmes qualités qui sont les percées balle au pied, mais on a déjà Emery pour ça. Emery est beaucoup plus complet dans le reste. Thuram, en plus, sans ballon, est un vrai plot. Donc, dans le jeu d'Enrique, qui demande beaucoup de pressing et beaucoup de courses sans ballon, je vois pas du tout Thuram avec sa nonchalance dans cette équipe-là.
Et est-ce que vous voulez réagir, Gâteau, Réco, sur Thuram ou pas?
Ouais, j'ai pas tant suivi Nice. J'ai regardé que deux. Je pense que j'ai regardé quand même trois matchs.
Ouais, mais... Il est pas ouf cette saison. Il est bon par séquence, mais dans l'ensemble, t'as toujours des choses à redire sur ces matchs.
Après, faut avoir. Est-ce que c'est l'entraîneur aussi qui met des consignes particulières? Les coachs différents à chaque fois. Nice aussi, c'est. On le dit pas assez, mais c'est pas si clair que ça comme projet avec Ineos.
Voilà, ils sont leaders. Là, ils sont... Ah non, ils sont deuxième. C'est Brest le leader.
Non, c'est Brest. C'est Brest. C'est Brest qui est leader. C'est Brest.
Et match pour le titre ce week-end, Nice-Brest.
Rapidement, Zubi Mendy, on demandait, il a 24 ans, et quelqu'un qui nous demande c'est qui Emery, bah écoute.
C'est Zaïre Emery.
Regarde les compositions, tu arriveras à trouver tout seul. C'est un Titi de 17 ans, c'est, à mon avis, c'est assez facile de faire le lien. C'est assez facile de faire le lien. Bon, il n'y a plus trop de questions. Bah, messieurs, en tout cas, ce fut un grand plaisir. Je vais y retourner une troisième fois pour les likes, lâchez-les, ça coûte rien, on en a besoin.
Et on s'abonne aussi, hein, si ce n'est pas déjà fait. Il y en a beaucoup qui ne sont pas abonnés, donc.
Plus d'abonnements, on n'hésite pas à vous checker en description. On a lancé une petite cagnotte. Si vous avez envie de nous voir en live et en présentiel autour d'un studio, eh ben, on va essayer de mettre ça en place. C'est pour tout simplement ce studio. Gâteau, Réco, Basto, ce fut un plaisir de vous avoir. Et sur ce, ciao tout le monde. Ici, c'est Paris.
Ici, c'est Paris. Ciao.